Quatrième lettre, à sa sœur. Naples, 10 janvier 1850. Voilà bientôt 2 semaines que je suis à Naples, cher ami. De jour en jour, j'ai remis à t'écrire voulant te transmettre une expression plus exacte et plus complète de la physionomie de cet étrange pays. Et aujourd'hui, je suis encore à démêler les sensations si diverses, si opposées, qu'il a réveillées chez moi. S'il est 2 villes au monde qui produisent une impression différente, c'est assurément Rome et Naples. À Rome, l'effet est électrique. Ce torrent de poésie et d'imagination plastique, qui est comme répandu dans le ciel, dans les monuments, dans le sol, j'oserais même dire, sauf explication, dans les hommes, vous déborde et vous possède dès les premiers instants et vous ôte le pouvoir ou la volonté de critiquer en détail tant de faiblesses et de misères. À Naples, le premier effet est beaucoup plus complexe et plus balancé. Je comprends qu'aux yeux de l'homme de plaisir, ou de celui qui se préoccupe exclusivement des beautés de la nature, Naples soit le lieu privilégié par excellence, le paradis sur terre. Mais pour le philosophe qui s'est fait une idée plus élevée de la beauté, qui la cherche surtout dans le monde moral, dans les institutions religieuses, dans l'art, dans ce qui est humain en un mot, pour celui-là, Naples aura presque autant de tristesse que de jouissance. Personne n'est plus disposé que moi à la tolérance envers le caractère et les institutions étrangères aux nôtres. Rome ressemble certainement moins que Naples à la France. L'extérieur de la vie en ce pays diffère peu de la nôtre. Eh bien, à Rome, je pardonnais tout. À Naples, je ne le puis. Non, je ne le puis. C'est par trop fort. L'extinction absolue de tout sentiment moral, voilà le dégoûtant spectacle que présente ce peuple infâme. Ce ne sont pas des hommes, ma chère amie, ce sont des brutes, par lesquels vous cherchez en vain quelques traces de ce qui constitue la noblesse humaine. Non, cela n'est pas tolérable, non, on n'est pas maître de détourner complètement les yeux de cette dégradation pour ne voir que la mer, le Vésuve, Ischia, qu'après. Car qu'est-ce que tout cela sans l'homme? Qu'est-ce que la nature sans les sentiments moraux dont elle est le symbole et le miroir? Le sol de Rome me serait-il si cher s'il ne recelait ces nobles ruines? Le coucher du soleil serait-il si beau du Monte Pincio s'il n'éclairait de ses derniers rayons le Janicule, Saint-Pierre, le Vatican? Comprends-moi, cher ami, et ne pense pas que j'applique à ces choses une critique étroite et mesquine. J'ai une grande facilité à faire abstraction des réalités qui m'environnent. Je cherche le type d'un peuple, non pas dans quelques individus dégradés, mais dans les œuvres qu'il exprime, dans ses grandes manifestations artistiques et religieuses. C'est par là, et non certes par les pauvres hommes que j'avais sous les yeux, que Rome m'a séduit. C'est par là que Naples m'a déplu. La religion et l'art de Naples dépassent tout ce qu'on peut imaginer, en fait, de ridicule et de mauvais goût. Au nom du ciel! Ne vois en ceci aucune récrimination voltairienne, aucune mauvaise humeur de philosophe. Je ne fais que constater un fait. Les manifestations religieuses de Rome plaisent, touchent, élèvent, lors même qu'on les regarde du dehors. Je t'affirme que celle de Naples ne saurait exciter que le rire lorsqu'elle n'excite pas le dégoût. Le culte populaire de Rome est vrai, naïf, plein de haute moralité. Que de choses charmantes j'ai vues à notre chère église de l'Araqueli, le jour de Noël. L'église, comme au Moyen-Âge, lieu de réunion populaire, chacun y faisant son ménage, les moines grommelant au milieu de tout ce tintamarre, des mystères à la manière ancienne, sortes de dialogues récités et en partie improvisés par des enfants du peuple, avec une inimitable vérité, et par-dessus tout, la célèbre crèche qui attire tant de pèlerins émerveillés de toutes parts. « Ecco la Madonna, ecco il bambino, oh che bello !» Enfin, cet accent populaire et de naïve moralité qui fait la beauté religieuse. Mais ici, cher ami, rien de tout cela. Pas un instinct moral. La religion n'est que la superstition pure, l'expression de la crainte ou de l'intérêt. D'abord, il n'y a pas de Dieu pour ce peuple. Il n'y a que les saints. Et les saints ne sont pas envisagés comme des modèles de vertu morale ou religieuse, mais uniquement comme des thaumaturges, des espèces de magiciens surnaturels au moyen desquels on peut se tirer d'embarras quand on est malade ou dans un pas difficile. Les églises deviennent ainsi de vrais musées pathologiques où chacun fait suspendre le modèle de la maladie dont il a guéri. Et notre ami d'Arambert parlait sérieusement de faire envoyer au musée Dupuytren quelques-uns de ces moules qui sont empilés à la lettre dans les chapelles vénérées comme type des maladies du pays. Il y a des saints pour les voleurs, et j'ai vu de mes yeux un ex-voto où le saint délivre l'auteur du vœu des mains des gendarmes. Mon Dieu ! À Rome, je pardonnais tout cela, car il y a au fond de ce peuple un fond de moralité et de poésie. J'aimais à les entendre raconter comme quoi les bombes du siège, des bombes françaises qui jusqu'ici pourtant n'ont guère obéi qu'aux lois de la nature, s'étaient détournées de leur chemin pour ne pas briser telle madone ou tel saint. Mais quelle poésie, en vérité, dans un peuple qui attache une corde au cou de Saint-Janvier en le traitant de galeux et le menaçant de le traîner à la mer quand il tarde à faire son miracle. Cette façon si dégradée d'envisager la religion a eu et devait avoir sur l'art la plus déplorable influence. La statue, ici, c'est le saint lui-même. Dès lors, il ne s'agit plus de le faire beau, de réaliser sous un nom donné un type idéal, mais de le faire bien réel. On n'a plus de statues, on a des images ou des joujoux. De là ces ignobles statues habillées, vraies caricatures qui remplissent ici les églises renfermées sous verre et sous lesquelles on entasse les rubans, les cœurs, les couronnes, de façon à former sur sa tête des pyramides plus hautes que le saint lui-même. Cela est clair, chacun veut enchérir sur celui qui l'a précédé. Un tel donne au saint un cœur en argent, mais moi, j'ai bien le droit d'en faire autant. De là ces saints qui ont 4 ou 5 cœurs, embrochés, transpercés, rôtis à toutes les sauces possibles. Puis quand il n'y a plus de place pour les cœurs, on met des couronnes, puis des bagues, puis des colliers, puis des branches de lys, que sais-je. Imagine un peu ce que fut devenu la Dolorata de Michel-Ange, ou le saint Sébastien de Bernini, si on l'eût affublé de la sorte. Voilà, ma chère amie, l'art de Naples. Ce peuple ne comprend que la chair, le matériel. Je ne puis te dire quelle fut notre colère quand, au lieu de ces charmantes madones qui, à Rome, frappent partout les regards, nous vîmes à San Domenico Maggiore, à San Gennaro et dans presque toutes les églises, exposées sur une espèce de toton devant l'autel, une infâme poupée en robe bleue, en cheveux, tout cela si réellement que de loin on la prendrait en effet pour une femme. Le lait, le repoussant, voilà ce qui plaît au goût dépravé, au sens perverti de ce peuple. La religion, qui constitue ailleurs la plus noble partie de la nature humaine, n'est ici qu'une transformation, une perversion, pour prendre le terme physiologique, des instincts inférieurs qui ne se nomment pas et qui sont si habiles à se transformer pour se satisfaire. Tous les Christs de ce pays sont atroces. Incapables de comprendre et de représenter cette sublime figure, ils ont substitué à l'idéal de la beauté morale la dégoûtante image de la souffrance physique, comme ces gens blasés à qui il faut le spectacle de la souffrance réelle pour suppléer à l'émotion morale qui est usée chez eux. Leurs Christs sont laids, lacérés, crevassés, trop heureux encore quand ils ne sont pas affublés d'une robe rouge. Au fond, cher ami, je crois que le type espagnol, qui a tant laissé de lui-même à Naples depuis sa domination, est pour beaucoup dans cette étrange dépravation. L'Italien est trop artiste pour cela. Et en effet, nous voyons que sous la maison angevine, et surtout au XVe siècle, Naples fut un des principaux centres artistiques de l'Italie. Ce que j'ai dit de l'art religieux, il faut le dire également de l'art profane. Il n'y a pas à Naples un édifice, pas une fontaine, pas une statue qui ait quelque mérite. Excepté, je le répète, quelques monuments de la dernière moitié du Moyen-Âge. Le Castel Nuovo, San Gennaro, Santa Chiara, complètement défiguré par l'ornementation moderne, l'Incoronata et la célèbre église du Mercato, Santa Maria del Carmine, qui rappelle tant de souvenirs depuis Conradin jusqu'à Masaniello. Tout le reste est du plus effroyable mauvais goût. Naples n'a pas eu depuis le XVe siècle un seul artiste de quelque valeur. Chose étonnante, la ville la plus béotienne de l'Italie en fait d'art est celle pour laquelle la nature a été si prodigue. Pour trouver quelque chose de beau, en fait d'art bien entendu, à Naples, il faut aller au musée. Incomparable collection de statues antiques, de peintures de Pompéi, d'Herculanum, de bronze, de vases, etc., à laquelle l'Europe n'a rien à comparer. Ce béotisme du reste s'explique. Il y a maintenant pour moi 3 Italies bien distinctes. Celle du Nord où l'élément intellectuel domine, noble, forte, faite pour l'action et la vie politique, pour la philosophie et la science. Piémont, Lombardie, grandes écoles rationalistes de Padoue, Pavie, Venise, etc. L'Italie du centre, Toscane et Rome, où l'intelligence et la sensation se combinent dans cette belle proportion qui fait l'art et la religion, c'est le pays des arts, assez inhabile à la science, à la vie politique et à la philosophie. L'Italie du sud, où la sensation domine tout à fait et étouffe tout le reste, c'est le pays du plaisir, rien de plus. En ce pays, on n'a jamais fait que jouir, depuis Tibère, Baïa, Capré, jusqu'à nos jours. Jamais une noble pensée n'a germé sur ce sol. Jamais on ne s'y est préoccupé du beau idéal et du vrai. Se laisser aller au courant de cette enivrante nature. Hein. J'ai merveilleusement compris cela à Baïa, au pied du temple de Vénus Génitrix. Pays ignoble, pays de plaisir. La jouissance étouffe l'art comme elle étouffe la beauté morale. Pourquoi ces rudes efforts, cette poursuite acharnée? Colliamo la rosa, c'est bien plus facile. Lamartine a divinement exprimé cela dans ses nouvelles méditations, toutes faites sous l'influence napolitaine, Ischia, élégie. Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie. Tristesse. Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage. Combien de fois près du rivage où Nisida dort sur les mers? Adieu à la mer, l'élégie. Si tu pouvais jamais égaler, ô Mali, etc. Ce n'est pas là ma manière. Ce pays excite en moi une grande réaction morale et me passionne surtout pour Rome. Maintenant que cette ville est dans le lointain, elle m'apparaît toute divine. Oui, à cette coquette Parthénope, couchée comme une belle endormie sur le bord de son lac, à l'ombre de ses orangers, je préfère ma vieille matrone romaine, avec ses rides et sa tristesse séculaire. Ah, avec quelle joie je la reverrai dans quelques jours. Qu'ai-je fait, cher ami? Je viens de t'écrire 4 pages, de mauvaise humeur, et à peine me reste-t-il de l'espace pour te parler des enchantements de ce pays, et de cette chaîne de lieux célèbres ou charmants qui sont groupés autour de cette baie incomparable. J'ai vu Pouzol, Baïa, le cap Misène, Cume, l'antre de la Sibylle, le lac Averne, le lac Lucrin, Ischia, Procida, Nisida, Capré, Sorrente, Castellammare, Pompéi, Portici, La Cava, Salerne, Paestum. Demain, nous allons au Vésuve et Herculanum. Pompéi est inappréciable, une ville romaine en plein soleil. Mais que je préfère Paestum, une ville dorienne, du 8e au 9e siècle avant Jésus-Christ, conservée dans ses édifices principaux avec son enceinte cyclopéenne et ses temples étranges dont l'architecture n'a pas d'analogue. Paestum nous a bien récompensé des peines qu'il nous a coûtées. Ces admirables ruines sont situées dans un affreux désert, au milieu de marécages presque inabordables en cette saison, et à une journée de Salerne. Là, nous avons planté nos colonnes d'Hercule vers le midi. Ce n'est pas sans tristesse que je me disais en revenant que, désormais, je tournerai le dos au soleil. Rien ne peut te donner une idée, cher ami, de la sauvagerie de ce pays et de ses habitants. Salerne peut être considérée comme la limite de la civilisation vers le sud. Je ne puis te dire l'étrange impression que j'ai éprouvée en me trouvant ainsi subitement en pleine barbarie. Quoi? Je ne suis qu'à 6 ou 7 jours de Paris et je suis au bout de la civilisation. Au centre, on croit la circonférence éloignée à l'infini. Quelle surprise quand on vient s'y heurter, comme un homme qui donne du nez contre un mur qu'il croyait bien loin devant lui. Toutes ces courses, cher ami, n'ont rien dérobé autant que nous aurions pu donner à nos recherches scientifiques. La prudence me défend toute réflexion sur les inqualifiables procédés de ce pays. Qu'il me suffise de dire que depuis 1 an à peu près, tous les manuscrits sont sous le scellé sous le prétexte le plus futile, que depuis ce temps nul n'a pu en voir un seul, que toutes les démarches de M. de Renneval pour obtenir l'autorisation de faire lever les scellés. Tout cela, comme tu peux penser, ne nous met pas de bonne humeur. M. d'Arembert comptait surtout sur les instruments de chirurgie de Pompéi conservés au musée. Aussi, sous les scellés, nous n'avons pu les voir qu'à travers un verre, et les dessiner tant bien que mal, malgré les exclamations de 2 ou 3 custodes qui tempêtaient pour nous en empêcher. Quel pays, mon Dieu, quel pays! Les bras nous en tombent. Pour comble de malheur, la bibliothèque Brancaccia, où il y a aussi quelque chose en fait de manuscrit, est maintenant sans dessus-dessous. Impossible d'y rien voir. Enfin, peu s'en est fallu que nous n'ayons dû renoncer au Mont Cassin. La vieille abbaye de Saint-Benoît est tenue en quarantaine comme un foyer d'esprit révolutionnaire. Les moines sont presque tous dispersés. Grâce à M. de Renneval, nous pourrons y entrer. Ah, que Rome est un pays d'or, pays de liberté, pays de bonne administration, de bons procédés. Je ne plaisante pas, cher ami, je compare. Ton frère et ami, Ernest Renan.